midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, on va vous montrer que les Français ont des idées, qu'il y a des hommes et surtout aujourd'hui des femmes de talent qui prennent des initiatives, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui créent des réseaux et qui inventent la société de demain. Comment oser se lancer dans la création d'entreprises ou accéder plus souvent à des postes de direction quand on est une femme? Les obstacles mais aussi les réussites qu'elles ont pu avoir dans le digital, à la tête de réseaux féminins, nous entendrons leur témoignage. Elle a plus d'un siècle, les fans de gastronomie la connaissent, elle fabrique des cuisinières sur mesure. C'est la cornue et c'est l'entreprise qui va bien merci. Recharger sa voiture électrique grâce à une borne dans son immeuble ou au travail, cela devient possible grâce à The Plug, c'est la solution. Et c'est la France qui bouge sur Europe 1.
Europe 1.
Il paraît que les entreprises qui ont au moins une fondatrice, donc une femme, ont des résultats plus élevés de 63% que les entreprises n'ayant que des fondateurs hommes. Pourtant, un tiers des femmes ont envie d'entreprendre. Alors comment permettre aux femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pour en parler autour de la table dans le studio Lagardère, notre coach du jour, Éric Léandry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Quant. Pour nous donner des tas d'autres informations pendant toute l'émission, Paul Lassen, bonjour.
Bonjour.
De la rédaction d'Europe 1. Pourquoi ne pas imposer la mixité sociale dans l'économie numérique ? C'est le titre d'une tribune parue dans le journal Les Échos en décembre dernier. Bonjour Mercedes Serra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de l'agence de pub BETC, la présidente exécutive d'Avas Worldwide. Vous avez co-signé cette tribune avec un collectif de femmes dirigeantes d'entreprises. Et alors on le voit, dès le début de cette tribune, les mots sont très clairs. On dit une start-up, une entreprise, une levée de fonds, une licorne. L'entrepreneuriat, est-ce quelque chose de fondamentalement féminin ?
Je crois que c'est ni féminin ni masculin. Après, je pense que dans la tête des femmes et des hommes, c'est plutôt masculin. Parce que parfois, les féminins sont masculins. Vous savez que c'était Françoise Héritier, notre grande anthropologue, qui avait classé les mots féminin, masculin. En fait, les mots les plus positifs dans les différents pays, quand les gens considèrent qu'un mot est positif, ils considèrent qu'il est masculin.
Alors, comment on arrive là ? Comment faire pour... La situation a quand même évolué. Elle s'est quand même améliorée.
Doucement.
Oui, tout doucement, mais
doucement.
On y va. L'un de vos combats, c'est l'égalité salariale. Même si les écarts de rémunération se réduisent de plus en plus, hein, les femmes gagnent toujours 9% de moins que les hommes à poste égal. Dans votre entreprise, ça se passe comment ?
Bien, parce que c'est moi la patronne.
Donc pas
quand vous ne voulez pas d'écart de salaire, vous n'en avez pas.
Mais comment vous faites pour faire passer ces idées ? Est-ce que tout le monde trouve ça normal ?
Oui, parce que je pense qu'on se pose trop de questions, on complique trop les choses. Soit on considère que l'égalité est une bonne chose, soit on considère qu'elle ne l'est pas. Moi, je pense que tout être humain normal considère que l'égalité est une bonne chose. Je n'ai même pas dit la similarité, j'ai dit l'égalité, les droits humains. Et que donc, quand quelqu'un travaille, pourquoi payerait-on différemment le même service ? Et pour être honnête, on paye au début, en sortant de la même école, les filles et les garçons ne sont pas payés pareil.
Dans votre entreprise ou de manière générale ?
Dans mon entreprise. Non. Dans mon entreprise, ils sont payés pareil. Ce n'est pas tellement d'ailleurs là où c'est compliqué, où ça se joue. Ça se joue quand les filles montent.
Et ben justement,
mais en fait, il faut dire que dès le début, c'est compliqué.
Mais
voilà.
Plus elles montent, on le voit, et plus elles sont victimes de discrimination. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne moins ?
Elles sont victimes. Elles sont victimes. Peut-être qu'il faut qu'elles arrêtent d'être victimes.
Vous râlez après elles un peu.
Je pense, oui, je râle après les filles. Parce que bon, je pense que ce n'est pas facile d'être une fille, qu'on a des kilos de maman, d'arrière-maman, de grand-mère et tout ça qui nous ont appris à quel point il fallait être sympa, gentil, bien élevé et qu'on continue à nous raconter cela.
Et on ne dit pas ça aux garçons ?
Non, on ne dit pas ça aux garçons. On a une éducation genrée en France. Encore.
Encore
c'est
maintenant.
Dingue. Oui, encore maintenant.
Et vous le ressentez quand vous recrutez des jeunes collaboratrices ?
Bien sûr, un garçon va tout de suite négocier son salaire. Une fille va être contente d'être payée. Il faut dire que les filles ont longtemps travaillé sans être payées et que ça, il doit nous rester quelque chose. Donc c'est difficile, l'éducation est genrée, sinon comment explique-t-on que les filles ne fassent pas des sciences alors qu'elles sont super bonnes en maths ? Comment explique-t-on qu'elles ne soient pas au même niveau de salaire si ce n'est parce qu'on les a bâties un peu différemment ? Je ne crois pas qu'elles naissent très différentes.
Que dit notre coach Éric Léandry ?
Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont totalement vraies. Et moi, je fais Tech for Good avec l'Élysée depuis l'année dernière, sur lequel justement le sujet, c'était l'égalité homme-femme dans les entreprises. Et exactement ce qui vient d'être dit, le fait de ne pas négocier son salaire, d'accepter un premier salaire, tout ça, ça doit être brisé par la loi ou par des mises en place dans les entreprises bien faites. Par exemple, c'est la même chose, c'est la même entreprise, c'est la même école de sortie. Ben point, chez moi, c'est le même salaire.
Vous le constatez dans les entretiens aussi, les filles n'osent pas parler salaire ?
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elles demandent quel est le salaire. L'autre, il essaye de négocier déjà, lui, il demande W, hein, ça c'est avant
coach,
même de commencer.
Ah, bah ouais.
Et donc, pour régler ça, il suffit d'avoir le salaire égal. Et d'ailleurs, celui qui l'a prouvé, c'est le CEO d'SAP, qui a mis tout le monde en France au même niveau de salaire. Ça lui a coûté 1 million d'euros, il l'a fait dans la journée. C'était marrant pour le patron de Cisco, il ne savait pas expliquer pourquoi lui, il ne le faisait pas. C'était compliqué. Puis moi, comme j'ai 3 filles, j'aimerais bien régler ça avant qu'elles arrivent sur le marché du travail. On va régler ça de suite. Et donc, je demandais plein d'autres bonnes idées. Il y en a des très bonnes de ce côté-là.
Elle va nous en faire part, Mercedes Errard. Justement, je m'adresse à vous, Paul, à propos de l'égalité salariale. Depuis une semaine, les entreprises doivent publier un index pour que cette égalité salariale soit respectée. Vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste ?
Eh bien, cet index, oui, voilà, qui a été mis en place par l'exécutif, il instaure une obligation de résultat que l'égalité salariale soit atteinte d'ici à 2022 sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Alors, petit tuto, pour ne pas être sanctionné, les entreprises devront obtenir une note supérieure à 75 sur 100, une note calculée sur 5 critères, l'écart de salaire, les hausses de salaire et promotion, l'augmentation post-congé maternité et le nombre de femmes parmi les plus hautes rémunérations. Et sur les premiers chiffres qui ont été publiés, les meilleurs élèves sont Sanofi, Michelin, Orange ou encore Capgemini avec plus de 90 points.
Alors il a fallu, on le voit, il a fallu passer par la loi.
Mais il faut passer par la loi, il faut arrêter de réfléchir à ce qu'on peut éviter. Combien de temps les femmes ont été contre les quotas parce qu'elles avaient l'impression, et j'ai encore lu des papiers hier de gens qui ont raconté qu'ils étaient contre les quotas, mais parce qu'ils avaient l'impression que tout ça allait venir naturellement.
Mais c'est,
qu'une
c'est
femme quota, c'était horrible. D'abord, il faut se calmer. Il y a eu 100% d'hommes quotas, puisque autrefois, on ne pouvait même pas rentrer dans les écoles tellement c'était verrouillé. Mmh. Donc, on se calme, ce n'est pas grave. Après, il faut bien accélérer les choses quand les choses ne veulent pas se faire toutes seules. Et donc, on l'a vu au niveau des conseils d'administration, seul endroit où en France, par la loi Copé-Zimmermann, nous avons réussi à avoir des quotas. Et maintenant, les entreprises disent « Regardez, ça marche. » Oui, ça marche, les quotas, ça j'avais compris.
Il a fallu passer par la
loi. Les COMEX, pas de quotas. La situation en France, CAC 40, enfin, une femme en DG. Donc, soyons raisonnables. Et donc, ça devrait faire du bien au monde.
Mais alors, cet index, vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous attendez plus ?
Formidable,
vous attendez plus encore ?
Ah, j'attends plus.
Quoi ?
Encore. Bah, je pense qu'il faut sanctionner les labels égalité.
C'est-à-dire sanctionner ceux qui n'appliquent pas cet index ?
Bien sûr. Il y a beaucoup de lois qui sont déjà faites et qui sont intéressantes.
Par l'argent ? Sanctionner par l'argent ?
Bah, sanctionner par l'argent, oui. Sanctionner par des amendes. Ensuite, je pense qu'il y a l'éducation. C'est un enjeu fondamental. Il faut, on ne va pas continuer à être obligé de sanctionner comme ça à vie. Donc si on éduque les petites filles et les petits garçons autrement, on ira mieux. Et l'école est fondamentale dans cette éducation.
Merci Zassera, vous restez avec nous. On va continuer à parler de la place des femmes dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat.
Il est 13h09. Europe 1, Elisabeth Assayag.
Le digital peut devenir une opportunité pour les femmes. Oser entreprendre dans le numérique, c'est ce qu'a fait la fondatrice de My Little Paris. Elle est avec nous.
Europe 1. Et avec Elisabeth Assayag et ses invités dans La France Bouge, on se penche sur ces femmes qui osent entreprendre et parviennent à occuper des postes à responsabilité.
Oui, parce que par exemple, tiens, le numérique compte 27% de femmes salariées. Dans les postes de direction en France, seulement 2% de femmes sont à la tête de grandes sociétés. Bonjour Céline Jubin.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice et la PDG de My Little Paris. Merci d'être avec nous. Alors vous, on peut dire que vous avez complètement cassé les codes avec votre site internet My Little Paris. Alors déjà, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, en quelques mots, My Little Paris, c'est...
Alors, My Little Paris, en fait, c'est un média qui est né du newsletter avec une idée hyper simple qui était de partager nos bonnes adresses à Paris.
Un site de bons plans.
Un site de bonnes adresses. Mmh. On a commencé en envoyant une newsletter à une centaine d'amis avec zéro argent et zéro expérience. Et aujourd'hui, en fait, on s'adresse à plus de 5 millions de personnes sans jamais avoir levé de fonds.
Et surtout, à l'origine, vous n'êtes pas du tout dans le digital.
Alors, En fait, on connaissait rien au digital.
Et vous étiez aucune... analyste financière, je crois,
ouais,
c'est ça?
Je travaillais chez Morgan Stanley à Londres. Et même, en fait, pour vous dire la vérité, il n'y a même aucune Parisienne dans les fondatrices de My Little Paris. Il n'y a que des provinciales.
Donc, aucune Parisienne, aucune personne dans le digital, aucune levée de fonds.
Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, exactement, le power of zero. Et concernant Paris, en effet, ce sont les vraies amoureuses de Paris.
C'est quoi le power of zero?
C'est cette idée qu'en fait, on peut faire des étincelles avec des bouts de ficelle. Et nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, sans levée de fonds et en n'y connaissant absolument rien au digital.
Ça, c'était il y a 10 ans.
C'était il y a 10 ans.
Éric Léandri.
Ah oui, mais non, mais depuis,
vous
ils ont
souriez,
fait,
on vous entend
fait,
rire depuis tout à l'heure.
Ils ont fait des gros progrès en digital, hein, ça, ils ne le disent pas. Donc, résultat, on avait un actionnaire commun, Axel Springer, donc je les voyais de temps en temps en Allemagne,
donc
à des grandes réunions,
la révolution.
Des messes. Et je trouve absolument génial ce qu'ils ont réussi à faire en partant d'une newsletter vers quelque chose qui s'adresse à des millions de gens aujourd'hui. Pour tous ceux qui disent, c'est dur de créer un média,
mais
c'est compliqué,
pas,
compagnie.
Je pourrais pas, là, on voit que c'est possible.
Il faut écouter, quoi.
Mais justement, on va vous écouter. Vous dites qu'avec rien, vous pouvez créer des étincelles. Et vous dites que le fait justement de rien connaître dans le digital, ça a été votre force?
Ça a été une grande force.
Mais pourquoi?
Parce qu'en fait, on a inventé ce que nous, on avait envie de recevoir comme newsletter. On est parti de nos envies.
Donc de votre besoin.
De nos besoins. Moi, je pense que c'est comme les chefs. En fait, les chefs, ils testent leurs assiettes et ils créent ce qu'ils ont envie de manger. Ben, nous, c'était pareil. Sur la newsletter, on a créé la newsletter qu'on avait envie de recevoir à cette époque. Et ensuite, de la même façon, en 2011, on a lancé My Little Box, qui était donc cette idée de recevoir une box pour surprendre nos abonnés dans leur boîte aux lettres. Et ça, en fait, on s'est inspiré...
Avec des petits objets, du maquillage, des petits bijoux.
Donc, 3 produits de beauté et 2 surprises My Little. Et on est vraiment parti de cette idée qui était de se dire, avant, on recevait un peu les colis dans nos boîtes aux lettres. On recevait des surprises ou des lettres, même des lettres dans nos boîtes aux lettres. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, à savoir des impôts et des factures. Et donc, voilà, on a voulu remettre un peu de surprise dans les boîtes aux lettres en partant de
joie et d'optimisme. Mais vous, à ce moment-là, quand vous êtes en train de monter votre entreprise, vous êtes donc avec votre 4 associés, vous vous dites comment est-ce qu'on va vivre, combien je vais gagner chaque mois, ou c'était juste de la passion? Parce qu'il faut aussi parler argent dans ces moments-là.
Alors, il faut parler, je pense, déjà... déjà chômage, très concrètement, on a eu la chance au début de pouvoir toucher le chômage au tout début de My Little.
Parce que vous avez quitté votre poste.
Et ensuite, assez rapidement, pendant un an, on a vécu sans argent. Et puis au bout d'1 an, il y a une première marque qui est venue nous voir, qui a voulu communiquer sur My Little Paris.
Alors justement, les marques, ce sont elles qui sont venues vous voir. Et vous dites que c'est plus facile d'avoir de l'argent avec des marques plutôt que d'aller lever des fonds.
En tout cas, My Little Paris, c'est une histoire de femmes. Donc comme je disais, on est 5 associées cofondatrices. Aujourd'hui, on est 130 employés, je pense qu'il y a à peu près 110 femmes. Et on s'adresse à 5 millions de femmes. Et c'est doublement une histoire de femmes parce que toutes nos clientes, et notamment les premières clientes de My Little, c'était des femmes qui recevaient la newsletter et qui, en tant que directrice marketing d'une marque, se disaient « bah en fait, ça peut être intéressant pour ma marque ». Donc c'est vraiment les femmes qui nous ont soutenues au tout début. Je pense que si on était allé voir typiquement des investisseurs, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué, sachant qu'aujourd'hui, il y a 2% hein, des fonds investis en France qui sont investis dans des startups portées ou fondées par des femmes.
Ouais, c'est encore trop peu. Paul, je me tourne vers vous. Dans les métiers du numérique, justement, ces effectifs sont loin d'être égalitaires.
Oui, absolument. À peine 33% des emplois dans le secteur sont occupés par des femmes, d'après des chiffres de la Fondation Femmes Numériques. Et plus inquiétant encore, la situation des ingénieurs. Dans les années 80, les femmes ingénieures en informatique représentaient plus de 30% des effectifs, ce qui en faisait le deuxième secteur en nombre de femmes diplômées. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 15%.
Éric Léandri.
Et ça, c'est bien dommage, parce que par exemple, en intelligence artificielle, moi, sur une partie de mes effectifs, j'ai une partie où il y a 3 à 4 femmes qui représentent des ingénieurs. Elles sont excellentes. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que les femmes devraient regarder de plus près pour repartir peut-être sur de l'ingénierie qui les amuserait. Et pour le reste... Là, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais porter un petit point. J'aime beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure. Il est très important pour les femmes d'y aller. Il n'y a plus de freins, il n'y a plus de blocages. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas ingénieur, si vous ne savez pas développer.
Toujours.
Parce qu'il y aura des ingénieurs et des développeurs. Les 3/4 des mecs que l'on connaît dans les startups ne savent pas développer non plus. Donc, il faut arrêter de croire que c'est des génies qui sont mis à lancer les startups. Il faut y aller.
On continue à parler des femmes et de leur envie d'entreprendre.
Il est 13h20. Europe 1.
Beaucoup de femmes ont des projets, elles ont envie, mais elles n'osent pas. Heureusement, il y a Les Audacieuses, un programme qui aide les femmes à entreprendre. Et dans la France bouge, coup de projecteur sur celles qui osent entreprendre, les audacieuses.
Oui, parce qu'en France, il y a un constat, hein, les 10 plus gros fonds d'investissement français n'ont investi que 2,5% des fonds levés dans des entreprises cofondées par des femmes depuis 5 ans, c'est beaucoup trop peu. Bonjour Margot Cognier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la co-directrice de l'incubateur La Ruche et co-fondatrice du programme Les Audacieuses, quel joli mot. C'est quoi Les Audacieuses ?
Alors, Les Audacieuses, en effet, c'est un programme qui a été lancé par La Ruche. La Ruche, on est un réseau d'incubateurs en France qui accompagne des entreprises à impact. Donc, des projets viables qui ont tous un impact social ou environnemental sur les territoires.
Donc, des projets qui ont du sens.
Exactement. Et donc, depuis le départ, on s'est engagé à lancer des programmes militants pour accompagner des personnes sous-représentées dans l'entrepreneuriat, à commencer par les femmes qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Et ça a commencé avec ce programme, en effet, Les Audacieuses, osons être actrices du changement. Donc le nom dit tout. Nous, on s'est donné un double objectif. D'abord, d'accompagner concrètement les femmes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec des programmes d'accompagnement qui sont gratuits et qui sont faits sur tous les territoires en France. Et grâce à l'émergence, justement, de nouvelles femmes dans l'entrepreneuriat, c'est aussi l'idée de les mettre en avant et de mettre donc en lumière des rôles modèles pour donner envie à celles qui ont des idées entrepreneuriales de se lancer.
Alors vous dites osons, vous parlez de ces personnes sous-représentées. Quels sont les freins aujourd'hui qui empêchent les femmes à entreprendre ?
Alors les freins, selon nous, ils sont avant tout culturels. Je pense qu'on le dit depuis le début de cette émission, le monde de l'entrepreneuriat est fondé par les hommes pour les hommes, historiquement.
Les femmes s'autocensurent.
Exactement. On observe vraiment une autocensure chez les femmes. Alors, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, et heureusement.
Mais Sarah est parmi
voilà,
nous.
Il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on observe vraiment quotidiennement des femmes qui ont un manque de confiance dans leur capacité à entreprendre. Il faut passer d'un rôle d'un statut de salarié ou de jeune étudiante à un statut d'entrepreneur, puis ensuite d'entrepreneur à manager. Et donc, il y a un peu ce sentiment presque d'imposteur, parfois, qu'on observe et sur lequel on essaye de travailler quotidiennement à travers cet accompagnement collectif, puisqu'on se base aussi sur cet esprit de solidarité qui existe entre les femmes entrepreneurs pour qu'elles se renforcent, qu'elles se connectent, qu'elles partagent, qu'elles échangent.
Un esprit de solidarité qui n'existe pas forcément chez les hommes ?
Je dirais qu'il existe moins, parce qu'en fait, il y a moins justement ce besoin finalement de mutualiser et d'échanger, de partager et de se renforcer finalement en tant que communauté de femmes entrepreneurs. Et on l'observe vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ces programmes qui sont genrés. Nous, notre objectif, à terme, c'est bien sûr qu'on parle d'entrepreneuriat au sens large, qu'on arrête de parler d'entrepreneuriat féminin et d'essentialiser ce terme. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour qu'elles s'identifient et qu'elles se sentent appartenir à la communauté d'entrepreneurs, on a dû genrer ces programmes.
Éric Léandri, je vous vois sourire.
Non, mais je trouve l'idée géniale et je suis d'accord, il faut pousser de toute façon. Ouais. Je suis malheureusement d'accord avec les quotas, je suis d'accord avec le fait de genrer, je suis d'accord malheureusement avec le fait de dire faut pousser parce que il y a un frein qui est des fois dans la tête et je l'entends.
Vous maintenant, le constatez, vous ?
Oui, je le vois parce que je le vois avec les gens qui viennent nous voir. Mais je le vois aussi à l'intérieur de l'entreprise. Je vais vous donner un autre frein parce qu'on parle des femmes entrepreneurs, donc chefs d'entreprise, certaines le font, certaines sont dans des entreprises. Je dis juste, quand vous devenez DG comme chez nous ou DGA d'une boîte comme la nôtre ou de beaucoup plus grande, vous avez le même type de problème, le même type de risque de croire que vous n'êtes pas à la place ou que si vous allez avoir un enfant ou pas d'enfant, blablabla. C'est pas une maladie ça. Hein. Donc résultat, il n'y a aucun problème. Il faut y aller, il faut la prendre cette place. Moi j'ai vu des gens à qui j'ai dû forcer et donner la place.
Bien sûr.
Que d'autres demandent, alors qu'ils n'ont pas les compétences et leur principe de Peter est arrivé depuis longtemps, mais le type, il se pose aucune question. Il la veut, et elle est libre. Mmh. Alors que la femme qui doit la prendre parce que c'est à elle, c'est elle qui a les compétences, c'est elle qui travaille, elle se demande si c'est le bon moment, si elle est prête, si elle est suffisamment âgée, si elle a fait suffisamment ses preuves, elle veut s'en aller pour voir ailleurs avant de revenir. Mais des choses, mais hallucinant.
Merci Dessera.
Je vais vous donner un exemple. On propose aux femmes de rentrer au conseil d'administration, parce qu'on met des quotas. Donc jusque-là, tout est calme. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font, les femmes ? Elles vont suivre des cours pour essayer d'avoir le niveau pour rentrer au conseil d'administration. C'était un événement. Jamais un homme n'a suivi un cours pour rentrer dans un conseil d'administration.
Et ça existe, en plus, c'est cool.
Les filles sont au même niveau que les garçons.
Plus.
Et pourtant, elles décident qu'il faut faire un cours.
Et là, vous leur dites quoi, vous, Mercedes Serra ?
Qu'elles arrêtent de travailler. Elles travaillent trop, nos femmes. Qu'elles arrêtent de travailler, qu'elles croient un peu plus en elles. Vous savez, notre histoire, c'est pas une histoire à prendre à la légère. Ça vient de très très longtemps. On est à des chiffres infimes quand on est en train de parler du numérique. Je ne sais pas si on se rend bien compte que si on ne se fait pas attention, le monde de demain n'appartiendra plus aux femmes. C'est une histoire de dingue, alors qu'elles sont tellement brillantes, tellement intéressantes. Donc, il faut vraiment prendre les choses profondément. Il faut qu'au niveau légal, il faut qu'au niveau des entreprises, il faut qu'à l'école, on pousse. Si on veut que ça change, il faut pousser. J'étais avec un dean d'Harvard un jour qui a regardé les deans français réfléchir parce qu'il voulait des Chinois, il voulait, et il disait « mais comment on fait ?» Et lui il dit « bah vous savez quoi ? Vous avez qu'à en prendre. » Eh bien c'est la même chose avec les femmes. Vous savez, vous voulez pas de problème ? Il n'y a qu'à décider. Une petite fille, si vous regardiez à l'école ce qu'on leur dit, si vous regardiez les mots qu'on utilise, pourquoi on ne leur explique pas que si elles vont pas dans les sciences, c'est une folie ? On a besoin qu'il y ait 50% de femmes dans les sciences. Donc, ce n'est pas une demi-mesure. En maths, au bac, elles ont des meilleures notes que les hommes. Pourquoi elles s'arrêtent à ce moment-là ? Donc, on leur a mis des modèles, on leur a raconté des histoires. C'est insidieux, c'est hypocrite en France. Il y a des pays où ce n'est pas hypocrite, c'est d'une violence extrême. Nous, c'est plus agréable, c'est plus hypocrite, mais il faut faire attention. Poussez vos petites filles à faire des mathématiques, de l'informatique. Toutes ces choses-là sont fondamentales pour nous.
Et on va continuer à parler justement de l'éducation des petites filles, puis qui deviendront des femmes. On reste ensemble. Nous sommes toujours avec nos invités qui, elles, ont osé bousculer les idées reçues autour des femmes dans l'entreprise. Il est 13h28.
Europe 1.
Venez, on vous attend, vos témoignages, vos questions. Nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous.
Europe 1.
Et aujourd'hui dans La France bouge, on parle de ces femmes qui franchissent le pas du management et de l'entrepreneuriat. Elisabeth Assayas. Oui, de celles qui osent, et peut-être que cela va donner des idées ou justement de l'énergie à celles qui nous écoutent et qui n'ont pas encore osé. Nous sommes toujours avec notre coach du jour, Éric Léandri, PDG du moteur de recherche Quant, Paul Lassen de la rédaction d'Europe 1, avec Mercedes Serra, cofondatrice de l'agence BETC, présidente exécutive d'Avas Worldwide, Margot Cognier, cofondatrice du programme Les Audacieuses, et Céline Orjubin, cofondatrice du site internet My Little Paris. Mercedes Serra, je me tourne vers vous. Nous étions en train de parler d'éducation. Que faudrait-il changer là, maintenant, pour changer les mentalités et l'esprit, l'état d'esprit des petites filles ?
D'abord, je pense qu'il faut que vous parliez et que vous racontiez que le monde aujourd'hui est en train de basculer dans un monde où les métiers vont changer et où le numérique et le scientifique, l'ingénierat, va être clé. Donc, si on coupe nos petites filles de ça, on est en train de créer un monde
masculin.
Uniquement masculin. C'est dommage, c'est tellement magnifique la mixité. On n'est pas pour un monde féminin, un monde mixte. Si on veut éviter ça, parce qu'aujourd'hui on est très mal parti, il faut pousser. Il faut pousser où ? Il faut pousser à l'école. Moi je crois que le ministre de l'Éducation doit prendre ce problème à bras le corps.
Alors vous voulez lancer un appel ?
Bien sûr, je crois en lui. Je crois en fait que si on décide qu'on va expliquer aux petites filles en sixième comment ces métiers sont magnifiques, comment elles sont extraordinairement capables de les faire, comment on les attend, on a des chances de pouvoir pousser. Je pense que les papas et les mamans qui m'entendent, ne vous laissez pas faire, ne laissez pas faire vos petites filles. Quand elles sont un petit peu et beaucoup sont douées en mathématiques, on les pousse. Et c'est une chose qui est complètement clé. Je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, une petite fille, ça choisit entre 10 métiers. Un homme, ça choisit avec plus de 100 métiers dans la vision. Parce que les petites filles, c'est le care, l'institutrice. C'est formidable. Nous, on adore le care et tout ça.
Le care,
mais les métiers, le soin, s'occuper des gens. Mais il faut aller au-delà de ça. Et il faut regarder les métiers de demain. Et surtout, il ne faut pas que les algorithmes, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui gèrent notre consommation, gèrent beaucoup de choses, la publicité, la consommation, soient des algorithmes qui ne soient pas mixtes. Aujourd'hui, ils sont masculins. Il n'y a rien de plus misogyne que la Californie. Hein, il ne faut pas oublier ça. Il n'y a rien de plus misogyne que la Californie.
Merci Mercedes Serra pour votre appel qui est lancé, qui a été entendu. Éric Léandri.
Alors la preuve, par neuf, LinkedIn, donc ce réseau, réseau social, proposait aux femmes des salaires moins bien payés qu'aux hommes. Parce que l'intelligence artificielle avait vu qu'elles étaient moins bien payées.
Qui
donc
fait
ils
partie
proposaient...
de Microsoft. Hein,
oui, oui, aujourd'hui, mais c'était le cas déjà hier. Et ça proposait des salaires moins bien payés. Donc si vous n'avez pas de femmes pour régler le problème des biais dans l'intelligence artificielle, vous allez avoir un délire de ce type multiplié par 100 dans tous les délires. Et ça, il faut l'arrêter maintenant. Et je dis... oui, chiche au ministre de l'Éducation nationale. Et
s'il dernière chose, s'il nous entend, il peut réagir. Hein.
Voilà. Et sur Quant Junior pour les petites filles, quand, par exemple, on avait mis un calendrier de l'Avent à faire numériquement, on a eu 25 000 enfants qui ont essayé de le faire pendant 24 jours. On peut le faire ensuite à d'autres époques, évidemment, mais simplement pendant 24 jours, les trois quarts qui ont terminé sont des petites filles. Pourquoi ? C'était pas des robots, c'était pas la guerre, et on n'était pas en train de faire Star Wars 3, qui sont pas forcément, alors ça peut aimer Star Wars, des petites filles, mais ça peut aimer autre chose. Et souvent, on ne propose que le robot et le drone après. Ils sont pas forcément dans leur univers. Donc mettons tous les univers, comme ça, ça va l'ouvrir à tout le monde.
Je me tourne vers vous, Céline Orjubin. Vous, j'imagine que vous êtes sur la même ligne hein, que Mercedes Era, évidemment. Qu'est-ce que vous comptez faire pour continuer à améliorer les choses ? Au sein de votre entreprise, mais peut-être au-delà.
Déjà, deux choses. Un, Mona, c'est un espace de coworking dédié aux femmes qu'on a ouvert il y a un an et demi maintenant. En l'espace de trois mois, on a reçu plus de 15 000 femmes. Et c'est toute une programmation, parce que ce qui est hyper important aussi, c'est le rôle des rôles modèles, d'avoir des pistes et des projections différentes. Donc, on pouvait venir écouter aussi bien Julia Béjaoui, la fondatrice de Frishti, qui a fait la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une femme en Europe, que venir écouter une chercheuse du CNRS qui venait expliquer, parce qu'en effet, Mercedes l'a dit, l'histoire est longue, qui venait expliquer l'évolution des femmes du Moyen-Âge à nos jours et de la vision qu'on peut avoir du rôle des femmes. Donc cet espace de coworking, on va l'ouvrir à partir de septembre. Et ensuite, c'est également Gina. Donc Gina, c'est une réponse média et un produit pour mieux connaître le corps des femmes. Donc c'est des tampons et des serviettes hygiéniques concrètement en coton bio, puisque c'est un marché encore très opaque, le marché des protections hygiéniques. Et c'est surtout des cours de SVT qu'on donne un peu partout dans Paris et en banlieue aux jeunes femmes.
Donc que les femmes osent, que les petites filles osent. Et aussi, il faudrait peut-être changer aussi la mentalité des garçons, quoi. Changer aussi la façon dont on les éduque.
C'est un vrai sujet. Merci d'assurer. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. On parlait tout à l'heure et on était tous pour le congé paternité. Donc un vrai congé paternité pour qu'il y ait vraiment trois mois du papa qui s'aperçoivent qu'il a un enfant et qu'il existe, l'enfant. Ce n'est pas une image.
Donc,
c'est
redonner sa place aussi au papa. Margot Cognier.
Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Et nous, on va essayer aussi de renforcer cette partie sensibilisation des financeurs de l'entrepreneuriat.
Très important.
On voit aujourd'hui que les femmes ont deux fois moins de prêts accordés. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de mettre en place en complément de ce qu'on fait déjà pour les femmes, c'est d'aller sensibiliser les banquiers, les investisseurs au fait que les femmes entreprennent aujourd'hui et qu'il faut réussir à ce qu'il y en ait de plus en plus de rôles modèles pour donner envie à un maximum de se lancer demain.
Osez entreprendre, gardez cet Bravo. Optimisme qui vous caractérise toutes les trois, mesdames. Merci d'être venues nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Avec un coach incroyable.
Un coach formidable, merci. Il est 13h39. Europe 1. C'est une entreprise qui fait plus que cuire, gratiner, griller ou flamber de belles recettes. C'est la maison La Cornue et c'est l'entreprise qui va bien, merci. France Bouge zoom sur une entreprise qui va bien depuis 1908 et qui fabrique des cuisinières sur mesure d'exception, Elisabeth. Et oui, parce qu'elles font plus que cuire, gratiner, griller ou flamber de belles recettes. Les cuisinières La Cornue sont des objets d'exception qui font rêver tous les fans de gastronomie. Bonjour Benoît Favier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de La Cornue. La Cornue, ça existe depuis 1908. C'est né à Courbevoie, je crois. Comment est venue l'idée d'un four en forme de voûte?
Oui, c'est ça. On a commencé notre existence en 1908, en banlieue parisienne, à Courbevoie. Aujourd'hui, on est basé à Saint-Ouen-l'Aumône. Saint-Ouen-l'Aumône, Val d'Oise. Donc, l'idée est venue à Albert Dupuis. En fait, il s'est rendu compte à cette époque-là qu'il n'y avait aucun produit qui pouvait à la fois cuire, rôtir et faire des pâtisseries. Et l'inspiration lui est venue lorsque le métro parisien s'est créé au début du XXe siècle, donc en 1900, où il a vu cette forme de voûte et il s'est dit « oui, c'est ça, c'est l'idée qu'il faut avoir pour la forme de mon four, parce que ça va permettre une convection naturelle de l'air chaud à l'intérieur du four et donc de conserver l'humidité à l'intérieur des mets, ce qui n'existait pour aucun autre produit à cette époque-là. »
Donc, une révolution.
Une mini-révolution. Alors... À l'époque, rien d'autre n'existait. Il n'y avait pas de gaz de ville non plus. Donc, on posait cette rôtisseuse pâtissière sur une source de chaleur.
Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, ce sont des petits bijoux hein, de savoir-faire et de technologie. Chaque cuisinière est entièrement fabriquée à la main en France, dans vos ateliers de production.
Chaque cuisinière sur notre modèle haut de gamme est fabriquée en France à la main de manière artisanale. Avec l'intervention quasi nulle de la machine, on l'utilise uniquement pour les tôles ou pour aider à porter des charges lourdes, mais on fait en sorte à ce que la main de l'homme soit le plus présent possible et à faire en sorte aussi que l'électronique ne soit pas trop présent dans nos produits pour garantir une très grande durée de vie à nos cuisinières d'exception.
Alors, on l'a vu, hein, c'est né en 1908, vous avez eu pas mal d'évolutions au fur et à mesure des années, et en 1964, la création de votre modèle phare, hein, votre modèle iconique, c'est le modèle Château. Il ressemble à quoi ce modèle? C'est celui que vous vendez le plus, hein, je crois.
Alors, le modèle Château est effectivement le modèle qu'on vend le plus. Il ressemble à quoi? Il ressemble au piano de cuisine tel que vous pouvez le rêver, donc avec des lignes qui sont aujourd'hui intemporelles, puisqu'on n'a pas changé le look depuis 50 ans. Alors tout ce que vous retrouvez à l'intérieur de notre modèle Château aujourd'hui, à l'intérieur, a beaucoup changé et beaucoup évolué au fur et à mesure de la technologie et des normes.
Mais l'aspect est le même.
Mais l'aspect et le look restent exactement le même et parfaitement reconnaissables. C'est-à-dire que quand vous le voyez, vous savez que vous avez une Lacornue.
Alors vous faites partie des toutes premières entreprises qui ont reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. C'était en 2007. Comment vous transmettez votre savoir-faire d'exception? Comment vous faites?
Alors le savoir-faire est pour nous important à conserver. À plusieurs titres, on a beaucoup de mal à recruter déjà au départ. C'est une vraie problématique pour nous pour trouver d'excellents soudeurs et d'excellents chaudronniers. Donc c'est aussi un appel. Donc s'il y a des candidats qui souhaitent postuler pour des postes de chaudronnier ou de soudeur, si vous nous entendez, n'hésitez pas. L'autre point, et on a un système d'accompagnement au sein de Lacornue pour transmettre ses savoir-faire.
Alors, donc une espèce de petite école de formation.
Une petite école de formation où on essaie d'avoir un maximum d'apprentis et de personnes qui sont accompagnées par des seniors pendant plusieurs mois pour parfaire leur formation et parfaire leur gestuelle.
Éric Léandry, notre coach, que dites-vous?
Eh ben, ça prouve juste qu'en 1908, la disruption technologique, ça faisait déjà toute la différence. Et donc, depuis aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ajouté du numérique à cette disruption technologique géniale? Vous allez vers quoi?
Alors, on va vers quoi? C'est une bonne question, merci de la poser. On est une petite entreprise, donc on n'a pas une force d'ingénierie extrême comme peuvent l'avoir d'autres groupes. Donc, je dis souvent, plutôt que d'être ingénieur, on doit être ingénieux. On doit être malin plutôt que d'avoir une force technologique. Et le fourvoûte, en fait, c'est notre origine, mais ça représente aussi notre ingéniosité. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose techniquement de très compliqué, mais ça change complètement le résultat intérieur. Et on a sorti un nouveau four il y a 3 ans, un nouveau four gaz, avec l'introduction d'un disque à l'intérieur du four qui permet d'avoir trois modes de conduction de la chaleur à l'intérieur, la radiation, la convection naturelle et la réverbération de la chaleur. Et tout ça nous a demandé de l'ingéniosité et pas de la force d'ingénieur. Et c'est là-dessus qu'on se tourne pour le proposer à nos clients. Parce que en puissance de développement d'ingénierie et d'électronique, il y a des très grands groupes qui ont des armées d'ingénieurs qui ont une puissance qu'on n'a pas.
Et alors justement, quels sont vos clients? Parce que là maintenant que les cuisines deviennent visibles, je me disais, il y a peut-être un truc à jouer avec vous.
Alors oui, il y a un truc à jouer et aussi
les cuisines visibles dans les restaurants.
L'engouement autour des chefs. Alors notre produit au départ est destiné aux particuliers, donc à un usage de type résidentiel.
Avec un certain budget tout de même.
Avec un certain budget, c'est vrai, mais si on le compare à la durée de vie du produit, ça relativise aussi l'investissement. On n'est pas dans des produits qui vont périmer très rapidement. Et effectivement, aujourd'hui, on a présenté au CIRA dernièrement, donc en janvier, une ligne pour usage professionnel, qui est le début, parce que aujourd'hui,
parce que vous avez envie d'investir les restaurants.
Parce qu'on a envie d'investir les restaurants. Beaucoup de chefs prestigieux nous ont chez eux, à domicile, et aujourd'hui, on veut envahir leur cuisine. Et pour envahir leur cuisine, il faut le produit adapté.
Et surtout, ce que vous êtes en train de faire en ce moment.
Et la cuisine est un show aujourd'hui pour ces restaurateurs. C'est-à-dire qu'auparavant, ils se cachaient dans leur cuisine et aujourd'hui, ils se montrent.
Donc, pour se montrer, peut-être avec vos merveilles de cuisinière, la cornue. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite.
Merci beaucoup.
Oui. Merci à vous, Benoît Favier, d'être venu nous présenter la cornue. Et c'est donc l'entreprise qui va bien. Merci. Il est 13h47.
Europe 1.
Recharger sa voiture électrique avec une simple borne, facile d'accès, c'est la solution et c'est la France qui bouge.
Europe 1.
Et dans La France bouge, Elisabeth, on parle à présent d'une solution pour recharger facilement son véhicule électrique. Oui, et puis on va finir par tous rouler en voiture électrique. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est comment les recharger. Et Paul Lassen, il va être possible de les recharger à domicile.
Oui, absolument. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, il faut se servir des bornes installées dans les villes pour recharger sa voiture électrique. Et bien, grâce à la société The Plug, il est maintenant possible de la recharger chez vous, dans votre immeuble ou bien au travail. L'idée, c'est de permettre aux bâtiments qui ont des parkings privés de proposer aux locataires et propriétaires d'avoir des bornes de recharge à disposition. Pareil donc pour les entreprises qui souhaiteraient valoriser le choix de l'électrique pour ses véhicules ou offrir ce service à ses salariés. Et tout ça sans que ça ne coûte un centime à ceux qui n'en profitent pas.
Bonjour Frédéric Renaudot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de The Plug. D'abord, comment vous est venue cette idée?
En fait, ça vient d'une expérience de client professionnel, parce que je travaillais dans le taxi et les chauffeurs de taxi devaient recharger des voitures électriques qu'on essayait alors, il y a de ça quelques années, il y a 4-5 ans. Et ils habitaient dans des immeubles en copropriété et leur copropriété ne voulait pas qu'ils se branchent sur le compteur des parties communes de l'immeuble. Et donc il a fallu...
Là vous avez dit je vais inventer quelque chose.
Voilà, je me suis dit il faut trouver une solution.
Et du coup comment on met ça en place?
Alors en fait, très simplement, il faut passer en assemblée générale, quand même, assemblée générale de copropriété.
C'est pas gagné alors.
En fait, l'intérêt de la solution, c'est justement qu'on ait voté à peu près à 90% des voix en moyenne en assemblée générale. Très souvent à l'unanimité. Pourquoi? Parce que c'est une solution qui est sans coût pour la copropriété. Quand on n'a pas à payer, ça passe tout de suite mieux. Et en fait, il suffit donc de voter une convention, un peu comme les opérateurs câbles ou fibre optique. C'est vraiment un système qui est calqué en fait sur le modèle de la fibre, un système par abonnement.
Mais c'est valable pour toutes les voitures? Parce
qu'il
y a des prises différentes selon les véhicules.
Alors maintenant, il y a heureusement un standard dans ce domaine et toutes les voitures, effectivement, peuvent se raccorder sur nos bornes.
Et justement, une fois que c'est passé en copropriété, qu'est-ce que vous faites derrière? Vous venez installer les bornes?
Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on ouvre une alimentation électrique séparée de l'immeuble, qui est prise à notre nom, donc un nouveau compteur, en fait, électrique. Donc ça prend un petit peu de temps, parce qu'on le fait auprès du gestionnaire de réseau de distribution, Enedis. Et ensuite, on installe, effectivement, une infrastructure de recharge à nos frais, ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur les charges de l'immeuble. Et ensuite, les utilisateurs qui le souhaitent s'abonnent au service.
Et justement, ça coûte combien pour s'abonner à ce service?
Ça commence à partir de 19,90€ par mois, électricité incluse. Et ensuite, si on veut plus de puissance ou plus d'électricité dans le forfait, ce sont des forfaits vraiment comme dans les télécoms. À ce moment-là, on peut choisir une puissance jusqu'à 11 kW. C'est-à-dire que ça permet de recharger à peu près 400-500 km en une nuit. Donc les plus grosses batteries avec cette puissance peuvent être rechargées en une nuit.
Éric Léandry, je vous vois très intéressé par les propos de Frédéric Renaudot.
Oui, moi je roule en électrique depuis un petit moment déjà. Et donc, et dans les entreprises, vous faites la même chose ou aujourd'hui c'est très copropriété?
Alors, on fait aussi la même chose pour les entreprises. D'abord, on permet aussi aux entreprises d'autoriser leurs salariés à se recharger à domicile grâce à une offre pour les flottes d'entreprises. Parce que très souvent, même les véhicules d'entreprise, par exemple les véhicules de fonction, mais aussi certains véhicules de service, sont rechargés au domicile des collaborateurs. Donc, il y a déjà ça. Et puis aussi...
Et la taille du réseau que vous avez réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi?
Aujourd'hui, on a plus de 500 copropriétés qui nous ont voté en Assemblée Générale. On a aussi installé à peu près 200 bornes auprès d'entreprises.
Mais ça nécessite beaucoup de cash. Donc, résultat, vous êtes financé comment ?
Alors, on se finance...
ça fait longtemps que j'avais pas fait.
Mais on y va, on va terminer là-dessus.
On se finance à la fois par des levées de fonds et aussi un système de leasing de nos infrastructures.
Merci à vous. C'était la plateforme The Plug qui vous permet donc de recharger votre voiture électrique facilement. Merci Frédéric Renaudot. Merci Eric Landry. Vous étiez notre coach aujourd'hui. Et je vous dis à demain.